Alors, Nicolas Faith, vous êtes anglais.
Oui.
Et vous êtes un passionné du vin et même une référence dans le domaine du vin en France. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes?
Ah, surtout je suis londonien et j'ai été à une grande école anglaise, et puis Oxford, et puis j'ai fait l'Institut des hautes études cinématographiques à Paris. Donc je peux dire à mes amis énarques que j'ai fait une grande école française, ça les emmerde. Mais ça n'a pas marché, le cinéma. Donc, je suis entré dans The Economist comme journaliste économique financière. Et je suis là de base. Et puis, en 73, j'avais commencé pionnier de la radio commerciale en Angleterre. Mais dans le vin, c'était la crise de Bordeaux en 73-74 qui m'a beaucoup d'attrait pour moi parce que c'était quand même financier, économique, social, économique. Ça m'a passionné. Donc, j'ai fait ce livre. The Wine Masters, qui est paru en 78, et c'est toujours imprimé, c'est toujours là, et qui est le premier livre à parler de la société de Bordeaux, cette curieuse guerre entre les Chartrands qui achetaient le vin et les viticultures. Donc après ça, j'ai fait le livre sur Margot et Latour, mais aussi, parce que j'avais un ami qui travaillait à Cognac, un livre sur le Cognac. Et parce qu'il n'y a pas d'autres livres sur le Cognac, je fais autorité. C'est ridicule. Mais j'ai fait trop d'autres choses. J'écris sur le marché de l'art, sur le champagne dans le vin, oui, mais aussi sur toutes sortes d'autres choses, sur le chemin de fer, je suis passionné du chemin de fer, etc., etc. Donc je fais trop de choses. Je n'ai pas eu de carrière. C'est une série d'accidents. Mais en plupart, c'est des heureux accidents assez heureux.
Combien de livres sur les vins et spiritueux?
Ou à peu près 6, 7, je crois. Oui, 3 ou 4 châteaux. Au plus, un sur un château anglais, très anglais, sur un château Louden. Il y a une famille remarquable, les Gilbys, qui ont introduit le vin français au grand public anglais. Donc, toutes sortes de choses. Mais Cognac et Bordeaux sont mes vraies passions.
C'est une crise, celle du Bordeaux, qui vous a amené au vin et à écrire sur le vin. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une nouvelle crise dans le Bordelais?
Oui, une crise beaucoup plus profonde, parce que c'était temporaire, ça n'a pas duré. La crise de 73-74, ça a duré 2-3 ans, ça a tout changé le paysage commercial de Bordeaux, parce que les petites maisons qui contrôlaient le vin n'avaient pas assez de capital pour survivre. Donc c'était la viticulture qui a maintenant dominante. Mais maintenant, il y a une surproduction extraordinaire parce qu'on a 122 000 hectares de vignes, souvent sur des terres qui ne sont absolument pas adaptées au vin, surtout au vin des qualités qui doivent être appelées Bordeaux. Mais il n'y a pas assez de contrôle sur la qualité. Et donc, vous avez cette crise plus profonde qu'on ne croit.
Est-ce que les viticulteurs français sont pas un peu, ou n'ont pas été trop longtemps trop sûrs d'eux-mêmes?
Oui, absolument. Et ils confondent, parce que le système d'appellation, c'est pour protéger les producteurs. Ce n'est pas une garantie de qualité. Et ça, c'est la base de la crise. Et je crois que la plupart des petits vignerons français ne comprennent pas les crises qu'ils ont, parce qu'en Angleterre, il y a au moins 22 pays qui offrent des vins basés sur le Cabernet Sauvignon. Mais les vignerons français ne dégustent pas. Ils disent, le succès des vins australiens, c'est du marketing. Mais ils ne dégustent pas le vin. Ils ne voient pas qu'il y a des vins qui, on peut garantir la qualité. Et ça, c'est la base du problème.
Quels sont les futurs champions du vin dans le monde?
Ouf, plusieurs, c'est ça on peut dire. Il n'y a pas un champion. Oui, les Chiliens, ça marche très fort en Chili parce qu'ils ont des terres et un climat qui risque d'être très utile. Parce qu'on est toujours en train de chercher des meilleurs endroits. Ça a été découvert en Bourgogne il y a 1000 ans. Ça a été découvert à Bordeaux il y a 500 ans. Ça a été découvert en Australie il y a 10 ans. Ce n'est pas toujours découvert en Chili. Donc, on ne peut pas garantir, mais on sait que l'Australien, Sud-Africain, Néo-Zélandais, qui a un grand succès, vont être des concurrents très sérieux, mais les Français, il y a beaucoup de Français qui n'en peinent pas.
Alors, ils vont s'en sortir, les Français, un jour?
Beaucoup de Français vont s'en sortir. Ce qui est très curieux, que la région qui marche le mieux, c'est Champagne, où c'est dominé par les multinationales. Donc c'est inutile de dire « Ah, c'est toujours la faute des multinationales ». Et Cognac rebond très bien. Je crois que les Bourguignons ont appris ce qu'il faut faire, les garanties de qualité, et les gens du Rhône, les Rhodaniens, ont compris. Et aussi, il y a plein de gens dans Languedoc-Roussillon qui comprennent ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup d'intérêt, des investissements par les autres Français et des étrangers dans Languedoc-Roussillon. Mais ce n'est pas généralisé. On cherche des lieux, des terroirs, ce qu'appellent les Australiens « distinguished sites », des sites distingués. C'est leur mot pour terroir, parce qu'ils ne veulent pas employer un mot français. Mais ça, il y en a partout en France, et c'est de plus en plus exploité. Mais quelqu'un qui fait des gros rouges ou de vin sans gros qualité, c'est vraiment une crise très profonde. Et Bordeaux, on voit ça parce que c'est 122 000, je répète, hectares, qui est ridicule. À Cognac, il avait 110 000 hectares de vignes, ils ont maintenant 78. Et ça, c'est comme ça à Bordeaux.
On dit que chez les Anglais, il y a les plus belles caves à vin de vin français. C'est vrai?
Oui, il y en a partout. Les Suisses et les Belges ont beaucoup. Et la Belgique, c'est le seul pays où le bon vin est démocratique. Même les petits bons gens ont des caves ou aiment bien leur vin. Donc, c'est pas. Il y en a en Angleterre, il y en a un peu partout, il y en a même aux États-Unis, naturellement beaucoup en France, beaucoup plus qu'on le dit, parce qu'on ne veut pas montrer qu'on a des bons vins qui coûtent une fortune, hein, le fisc.
Nicolas Feiss, vous avez une cave vous-même?
Très peu, parce que j'ai un appartement, c'est une armoire, deux armoires, où il y avait le lin, mais moi, le lin, je m'en fous, et donc je préfère le vin.
Et puis vous remplissez les bibliothèques du monde entier. Donc ça, c'est un vrai plaisir, non?
Oui, mais ça gaspille beaucoup de papier et de forêt. Mais dommage, je gagne ma vie avec ça.